entrée en gare de Dolisie du train qui nous emmène à Pointe-Noire, au Congo. Cela fait une bonne semaine que je suis arrivée dans ce petit pays d'Afrique équatoriale et j'ai atteint mon objectif, aller à Sibiti, petit village perdu au fin fond de la région de la Lékoumou.
Des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer.
Sibiti, c'est le village où est né mon père, le village où mes grands-parents vivaient et travaillaient il y a 60 ans. Mon grand-père y était ingénieur agronome spécialisé dans les huiles et oléagineux. Depuis toute petite, je voulais voir d'où venait mon père. Ce voyage, je l'ai entrepris en compagnie de l'homme de ma vie. Nous avons donc parcouru plus de 5000 km dans un avion Air France. Un trajet avec son lot de sans-papiers et conduits, de bébés qui pleurent et de retard. J'avais réservé une chambre pour notre arrivée, mais elle était occupée et pour cause de grands festivals de musique se tenant à Brazzaville, pas une seule chambre disponible et à prix correct à des kilomètres à la ronde. Nous faisons alors connaissance avec Galta, réceptionniste, qui prit pitié de nous et nous conduisit dans sa famille. Mama Hortense, Vinnie, Vincennes, Gaël, Léna, Judith, Amédée, nous passerons presque une semaine avec eux. Ils seront nos guides, nos amis, nos interprètes.
Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à Brazzaville, aéroport Mayabaya. Il est 19h05 en heure locale et la température extérieure est de 31 degrés.
Motengue, ça veut dire bonjour. Wafaso, comment? Wafaso, ça veut dire comment?
Olali,
Ngala, Boni, ça veut dire comment tu vas. Olali malamu, tu as bien dormi. Il y a tel que Mbongo, ça veut dire l'argent. Ozaki Toko, ça veut dire tu es belle.
Nous reprenons un avion pour aller à Nkayi. Un Antonov branlant, moins dangereux que le train que les Congolais nous déconseillent de prendre. Agressions, enlèvements et autres réjouissances du genre y sont, paraît-il, monnaie courante. Nous atterrissons dans un champ de canne à sucre. Nous rencontrons un gars qui accepte de nous monter à Sibiti dans sa voiture. Il nous reste encore 80 km à parcourir, dont 30 km de piste. Nous traversons des villages, Loudima, Soulou, des rivières, Niari, Louboulou. À chaque virage, nous menaçons d'écraser un paysan ou une boule. Je découvre la jungle dense, inextricable, qui tente d'étouffer la rivière. La poussière rouge recouvre tout. Voitures, maisons, vêtements, feuilles d'arbres. À Sibiti, mon grand-père devient le chef moreau. Joseph Hector Litibi a travaillé avec lui à l'IRHO, Institut de recherche sur les huiles et oléagineux.
Il était sévère au travail.
Vraisemblablement, le grand-père que je n'ai jamais connu n'était pas des plus commodes.
Tu as entendu, il a dit le chef moreau, il dit « Ah, le chef moreau hein. !» Donc, c'est-à-dire si tu me dis, il te fout des zéros à la fin du mois, c'est fini quoi.
Le président du conseil régional et un de ses conseillers nous conduisent jusqu'à l'institut situé à Grand-Bois, où mes grands-parents et leurs enfants, tous nés là-bas, ont vécu près de 5 ans.
Cet institut a été d'une importance tout à fait capitale, parce que c'est ici qu'a été procédé à l'amélioration d'une variété de palmiers qu'on appelle le Ténéra. Et donc l'institut a fait des recherches, et ces recherches ont permis d'améliorer le palmier et de mettre en place le Ténéra. Le Ténéra qui aujourd'hui fait la richesse de plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun et bien d'autres. Malheureusement, chez nous, la fermeture de l'institut a fait que cette culture soit abandonnée.
On va aller à l'intérieur pour voir les labos. Certainement où travaillaient vos grands-parents. Ah, il y avait même la place du drapeau, c'était le bleu, blanc, rouge, avant que le drapeau congolais ne flotte. Donc voilà, on rentre dans, peut-être par où rentrer vos grands-parents. Donc c'est là où ils gardaient du matériel biologique, génétique, comme on dit aujourd'hui. Vous voyez les paillasses de l'époque. C'est resté intact.
Après un bout de voyage propulsé dans le passé à la recherche de mes racines familiales, direction Pointe-Noire, quartier Mpaka 120, où nous retrouvons Aubin, cousin d'un correspondant congolais rencontré sur Internet. Nous faisons connaissance avec sa famille, qui nous accueille avec enthousiasme et nous fait découvrir une spécialité Mbembe, le Nyulbumako, cochon à la banane que nous avons connu bien vivant.
La d'esprit récit avec Madame Brigitte.
Nous faisons aussi connaissance avec les enfants du quartier qui ne nous quittent pas d'une semelle, chantant et récitant des poèmes de Victor Hugo par exemple.
Mon passé revenu du fond de ma mémoire, comme un serpent totem à mes chevilles, ma solitude et mes espoirs brisés. Qu'apporterai-je à mes enfants si j'ai perdu leur âme? Victoire Hugo.
Ils reçoivent au nom de Jésus la solution qui vient du sanctuaire.
Dans un hangar à deux pas, il y a une église bien nommée Église de Réveil.
Amen. Alléluia.
La curiosité me pousse à assister à une assemblée. Au Congo, il n'y a pas que les églises qui réveillent. Les discothèques sont assez qualifiées dans ce domaine-là aussi. Il faut bien le dire, la musique est partout dans ce pays encore bien marqué par une succession de guerres civiles. C'est d'ailleurs un thème abordé de manière récurrente par les Kilomba Mpala, un groupe de musique traditionnelle Bembe, qui nous laisse assister à l'une de leurs répétitions. Même si j'ai délaissé la montre depuis longtemps, le temps passe. Il faut retourner à Brazza, où j'ai repéré un petit resto qui semble sympathique et pour le coup, nous en avons eu pour nos papilles et nos oreilles, avec l'accompagnement musical du groupe Kwiti Kwiti. Ça veut dire la joie, la joie.
Si tu vois un magouya qui se met pour un pantalon, c'est qu'un pour sortir sa queue, il a trouvé une solution.